Vous êtes sur le podcast de la Minute d'Entreprise avec Andeli Bive Junior. La Minute d'Entreprise permet aux entrepreneurs africains de s'informer, de se former et de trouver l'inspiration pour cartonner en affaires. Rejoignez-nous sur notre site laminutedentreprise.com pour écouter tous les épisodes. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, sur La Minute d'Entreprise. Pour plus d'informations, nous sommes aussi disponibles par WhatsApp au 00 242 05 584 82 71. La Minute d'Entreprise, c'est votre moment de partage.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur La Minute d'Entreprise. Aujourd'hui, nous serons avec les membres du réseau Congo Business Network, mais aussi avec des dames battantes, des dames, des professionnels, des femmes entrepreneurs. Quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus récurrent sur l'Afrique, et tant mieux, parce que nous avons besoin de ces femmes et nous avons besoin qu'elles soient de plus en plus engagées. Malheureusement, il y a encore quelques écueils, mais je pense qu'avec le temps, nous allons arriver à l'objectif, celle de permettre peut-être à la population, la partie de la population la plus nombreuse, de pouvoir réellement participer au développement de l'Afrique. Alors, je vais laisser mes invités se présenter parce que personne ne peut mieux les présenter qu'eux-mêmes. Alors, bonjour Noël, et est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour, Junior. Je m'appelle Noël Chani, fondateur de Congo Business Network, basé à New York. Et je suis aussi le fondateur de Agir Global, une société de conseil en investissement et stratégie commerciale. Congo Business Network est un réseau qui regroupe les entrepreneurs congolais de la diaspora et ceux qui sont basés au Congo.
OK. Magali, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour Junior. Alors moi, je suis Magali Sueli, je suis fondatrice de l'agence de consulting Max Sueli Visual Identity, basée à Paris, mais j'exerce un peu partout dans le monde. Je suis aussi présidente d'une association Elle se valorise, qui a pour objet, qui propose des programmes de formation et d'ateliers et de conférences pour les femmes, pour valoriser leur image.
Ok, Sivi, à toi la parole.
Alors, je suis Sylvie Maloukissa, je suis la directrice générale de Manitech Congo SASU, qui est une société agro-industrielle. Nous sommes basés à Kinshasa et nous produisons en général de la nourriture, hein, et nous avons quatre grands produits sur le marché. Ce sont des confitures, nous avons des pâtes d'arachide, hein. Nous sommes en train de mettre sur le marché notre gamme d'épices congolaises. Et donc voilà, entre-temps, je suis la présidente du Made in 243, qui est une association qui réunit des industriels, tous ceux qui sont dans la petite, la moyenne ou la grande industrie Made in RDC. Et aussi, je suis vice-présidente de l'ACPRH, qui est l'Association congolaise des professionnels des ressources humaines, parce que pendant très longtemps, j'ai travaillé dans les RH.
La parole à Judith.
Bonjour, moi c'est Judith Tunda. Je travaille actuellement avec UNOPS, United Nations Office for Project Services, où je suis Project Management Associate. Et je suis aussi présidente et fondatrice de l'association Justice pour Toutes, une association sans but lucratif dédiée aux jeunes femmes congolaises démunies qui sont victimes des injustices sociales.
On ne va pas commencer ce podcast sans savoir comment vous vivez le confinement. Parce que je pense que, en tout cas, pour ceux qui sont confinés comme moi, il y a quelque chose à dire. Et on est toujours curieux de savoir comment des professionnels, des entrepreneurs vivent le confinement. Alors, je vais commencer par Magali. Comment tu vis le confinement ?
Alors, donc moi, je suis consultante, donc je propose du conseil. Alors, comment je vis ce confinement, on va dire, bon, d'un point de vue professionnel, bon, familial, on se débrouille, on fait l'école à la maison avec les enfants, et d'un point de vue professionnel, j'ai un peu plus développé et capitalisé sur le conseil à distance. Donc vraiment, je remercie vraiment l'évolution digitale, que ce soit des réunions, du coaching, à distance comme ça, en vidéo, que je peux proposer via Cisco ou via Zoom. Donc, vraiment, voilà. Ensuite, on reste inquiet. On reste inquiet. Nous, ici, en France, on nous prévoit un déconfinement pour le 11. On n'est pas sûr. On reste inquiet. Et puis, mais on reste optimiste.
OK. Bon, moi, je vis les joies du confinement. Vous voyez que même normalement, en plein enregistrement de mon podcast, ce qui devrait se faire dans mon bureau, ben, je le fais à la maison et j'écoute mon fils crier de l'autre côté. Alors, parfois. Et Judith, comment tu vis ton confinement ?
Là, ce confinement, c'est une situation nouvelle pour nous déjà, mais on essaie de s'adapter. Grâce à la technologie, comme Magali a dit, on arrive à tenir le cours. Et c'est vrai que cette situation, ça va diminuer la livraison de nos projets. Mais bon, on tient le coup et on fait avec.
OK. Voilà. Sylvie, alors toi, tu es ma voisine. Hein. Tu es à Kinshasa en ce moment.
Très compliqué, d'autant plus que nous, on est une industrie, donc on doit fonctionner avec les humains. Je ne sais pas si je vais dire heureusement que la ville de Kinshasa n'est pas entièrement confinée. Et donc, nous produisons chez moi à la maison. Okay. Et les travailleurs, du moment qu'ils évitent la zone confinée, peuvent arriver. Mais bien sûr, la sécurité avant tout, ça nous a obligés d'investir dans plus de sécurité parce qu'ils doivent se doucher entièrement, se changer, etc. Donc, ça devient un peu lourd, mais on est obligé. Et de l'autre côté, la zone confinée, c'est là précisément qu'il y a la plupart des supermarchés qui sont nos plus grands distributeurs. Donc, financièrement parlant, on est coincé.
D'accord.
Okay. Mais sinon, c'est la vie à la maison. Donc, ne vous étonnez pas d'entendre quelqu'un hurler « Mamie !» dans la maison.
Mais ouais, mais c'est la même chose chez moi. Apparemment, il veut même rentrer là. Là, il est à la porte. Il veut défoncer la porte. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il parle à qui? Mais je vais pas donner la parole à Noël parce que Noël, lui, le confinement, il doit le vivre super bien parce que lui, c'est un professionnel du télétravail. Alors, je sais plus le nombre de fois où je travaille avec lui. Moi, je suis à Brazzaville. Lui, il est aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'il est derrière ma porte. Hein, vraiment.
c'est la situation qui n'est pas. Qui est sans référence, ou sans précédent, hein. On n'a jamais vu ça, 24 ans aux États-Unis cette année, jamais vécu ce genre de situation où on ne peut pas circuler comme on veut. Je suis à New York, hein. Donc New York est connu, quoi, comme on dit, the city that never sleeps, ok? Donc, voir ce qui se passe actuellement, là, je n'ai pas vraiment bougé comme tu veux. C'est dur à supporter, mais en même temps aussi, on fait en sorte que les choses ont au moins ralenti, on rattrape le retard, on fait le maximum pour que quand les choses retournent à la normale, hein, on est un peu plus préparé. Moi, je devais être à Kinshasa tous ces mois, donc je suis pas pu voyager à cause de fermeture de frontières et on espère tout juste quoi. Faire tout ce qu'on peut faire, les choses retournent à la normale et on démarre, voilà. On contrôle ce qu'on peut contrôler en quelque sorte.
Bon, mais aujourd'hui, nous constatons alors, vu la présence des dames, nous constatons qu'il y a de plus en plus de femmes qui avancent très bien professionnellement et encore qui créent des entreprises. Qu'est-ce qui, d'après vous, accélère cette nouvelle tendance? Je vais poser la question à Judith.
Alors, je dirais que aujourd'hui, les femmes s'y sont réveillées. Les femmes, ce n'est plus des femmes ménagères comme à l'époque. Il y a maintenant beaucoup plus d'opportunités au sein des femmes, notamment il y a, au niveau de l'éducation, il y a maintenant des bourses et des formations qui sont dédiées spécialement pour les femmes. Et il y a aussi beaucoup d'hommes, si je peux me permettre, qui soutiennent maintenant les femmes, qui encourage et motive les femmes à travailler, à aller plus loin. Il y a aussi des compagnies financières qui donnent des loans aux femmes pour essayer de leur booster dans leur professionnellement, dans l'entrepreneuriat, etc. Et voilà, ça aussi, ça a un impact aussi dans professionnellement pour les femmes.
D'accord. Et Magali, comment tu vois cette accélération? Qu'est-ce qui pousse cette accélération-là?
Ouais, je rejoins un peu, je rejoins Judith. Et il y a aussi cette envie hein, de la femme de sortir hein, de son cocon, de ses tâches ménagères, voilà, et de participer activement et de s'épanouir aussi. Et, mais en même temps, j'aimerais vous dire que la femme, la femme en tout cas, la femme congolaise, si si on peut se focaliser sur la femme congolaise. A toujours été entrepreneur, a toujours entrepris, mais dans l'informel, malheureusement. La femme congolaise entreprend pour survivre, pour nourrir sa famille, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, effectivement, on a un peu plus une mise en lumière de ces femmes-là, un peu plus de professionnalisme et, comme je te disais, un peu plus d'accompagnement et de soutien de nos hommes et des grandes structure.
Là, je vois que parmi vous, il y a un parcours hétéroclite, un parcours génial, parce que à vous entendre vous présenter, on sent qu'on a des femmes de valeur devant nous. C'est cette valeur-là, on arrive même à inspirer des hommes. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été facile d'ouvrir ces portes-là. Est-ce que, par exemple, Sylvie peut nous raconter, je sais pas, une anecdote où elle a un souvenir d'une situation? Au fait, qui a marqué son parcours en tant que femme?
Oui, alors là, je vais rentrer vraiment au début de ma vie. Hein. On est dans les années 80, je parle là d'une toute petite fille d'environ 6-7 ans. Et voilà, on te dit carrément, une fille n'est pas comme ça. Une fille ne fait pas comme ça. Une fille ne porte pas comme ça. Et je crois à 6-7 ans, j'ai dit un jour, eh ben, je ne suis plus une fille. Je ne suis plus une fille parce que ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Et donc, forcément, ça a un peu impacté sur mon comportement et sur mes fréquentations parce que j'ai commencé à fréquenter plus les garçons. De toutes les façons, les filles trouvaient que j'étais moche. Oui, j'étais moche et donc pas intéressante. Et j'étais moche, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de petites filles. Beaucoup de petites filles se limitent. On leur a dit, une fille pense au mariage. Une fille ne pense pas aux grandes études. Et donc, elles limitent leur vision, elles limitent leurs rêves. Et j'ai toujours été contre ça. Pourquoi la société telle qu'elle est nous a toujours limités? Je voudrais vraiment voir avec ce que Magali a dit et vraiment ce qui se passe en RDC. Les femmes ont toujours été dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, mais jamais au niveau professionnel. C'est un réveil, moi, je admirative, je ne fais que, comme on dit, je m'enjaille grave de voir ce que les filles sont en train de faire aujourd'hui. Et je dis, tiens, j'avais raison.
Ah ouais, alors tu nous as enjaillé aussi par la même occasion. Du coup là, franchement, oui. Non mais c'est clair que c'est quand même difficile. Je pense que c'est difficile psychologiquement pour un enfant, une fille, que très tôt on puisse lui mettre déjà énormément de murs. Personnellement. Quand tu as parlé de ta situation, j'ai revu, il faut prendre des choses de manière simple. Moi, j'ai revu effectivement parfois des choses que je dis à ma fille lorsqu'elle fait un truc. Je dis non, mais ça, c'est pas pour les femmes et tout ça. Et c'est clair que c'est peut-être pas très encourageant. Il faut peut-être emmener ça d'une autre manière. Il faut lui parler d'une autre façon. Magali.
Moi, j'ai toujours baigné un peu dans un univers féerique. Alors moi, je suis désolée, j'ai quand même baigné dans un univers féerique. On est 5 filles, un garçon. Et donc, du coup, nous sommes 5 filles, un garçon. Ma sœur aînée est une femme que j'admire, a beaucoup de caractère, a toujours été responsable, très vite, très protectrice. Et le dernier est le garçon. Donc du coup, le fait d'être que des femmes comme ça, nous avons grandi sans nous dire que ça, c'est réservé à des hommes. Non, parce qu'en fait, on devait tout faire déjà. On devait apprendre à se débrouiller tout en restant élégant, tout en restant fille. Donc voilà, moi, vraiment, je j'ai pas connu de frein à ce niveau, sachant que j'ai également grandi en France. J'ai pas trop connu tout ça. Le sport, j'ai fait du sport, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket. Donc, dans ma tête, en fait, c'était déjà open et dans un cadre familial aussi où la femme était vue comme une femme, comme une battante également. Et voilà.
Oui, vous avez votre parcours, mais il y a la situation globale. Il y a la situation globale en Afrique. La situation globale en Afrique, de la participation de la femme au développement, au fait, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'il y a encore plus à faire? Est-ce qu'il y a plus à faire? Non, je parle à Judith.
De nos jours, je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup à faire, surtout en Afrique. En Afrique, il y a vraiment beaucoup à faire parce que dans certains pays africains où on trouve que la femme, jusqu'à ce niveau, elle ne peut pas travailler, la femme est obligée de rester à la maison, la femme ne peut pas avoir des ambitions à aller plus loin avec ses études. Et là, jusqu'à nos jours, on trouve ça dans beaucoup de pays africains. Alors, je dirais que oui, il y a vraiment beaucoup à faire, il y a vraiment beaucoup à faire et les femmes devaient avoir des opportunités. Et nos gouvernements, nos dirigeants doivent créer des opportunités pour les femmes dans les régions défavorables, vulnérables, dans le. Donc voilà.
Et Noël, quelle est ta vue? Moi, je sais que tu as une vue d'aigle sur l'Afrique. Donc, quelle est ta vue sur la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a encore des avancées à faire?
Comme vous pouvez voir, c'est un sujet très 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 délicat. Moi, je pense ceci. Ici aux États-Unis, c'est un pays qu'on a fondé depuis 1776, hein? Donc plusieurs années, un peu plus de 200 années. Les femmes ici sont en train de se battre, hein? Toujours, ok, pour avoir accès à des postes au niveau de la direction, au niveau des PDG, dans de grandes entreprises ici aux États-Unis. Bon, quand moi je vois ce qui se passe au Congo aujourd'hui, hein, moi je pense qu'on devrait faire plus et encourager les femmes, comme Julie a dit, d'aller à l'école, de suivre des formations, d'avoir accès à des postes de responsabilité aussi. Mais ce que moi je conseille aux femmes est ceci. Il faut pas demander quelque chose parce que tu es une femme. OK? Donc, je parle en tant qu'homme, hein, en tant que fondateur du réseau, j'ai interagi avec beaucoup de personnes, des hommes, des femmes. Donc, ne demande pas parce que tu es une femme. OK? Va à l'école, étudie, développe l'expertise dans un domaine, montre ce que tu es à mesure de faire. Montre ton expertise. Exprime-toi. Montre ce que tu es à mesure de faire comme suivi. Donc, la meilleure chose qui peut parler pour Sylvie Malikis, fondatrice de Vanité Congo, c'est ce qu'elle peut faire, ok? C'est produits de qualité, voilà. Si elle peut montrer cela, personne ne peut dire, oh, tu es une femme à décider. Donc, vous voyez, ton expertise va parler pour toi-même, ton service ou ton produit va parler pour toi-même, ok? Et personne, hein, ne sera en mesure quoi dénier ce que tu as fait et surtout ce qui est clairement, clairement visible. Donc, c'est ça que moi, je conseille donc aux femmes. Exprimez-vous, étudiez, montrez votre expertise.
Si je peux aussi me permettre, j'ajouterais que la mentalité doit changer. Et l'éducation aussi en Afrique doit être aussi changée. Parce que dès le bas âge, nous les filles, on nous dit déjà que ce métier n'est pas dédié aux femmes, ce métier est seulement pour les hommes. Alors, je disais déjà, au primaire, on devait apprendre aux filles qu'elles peuvent être ambitieuses, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ça aussi, c'est un point où notre éducation devait changer ça déjà de première.
Mais ça veut dire, moi, il y a quelque chose quand même qui me freine un peu. En fait, lorsque j'étais au primaire, je me suis retrouvé à faire des batailles, mais vraiment de grandes guerres contre des grandes dames. Et elles étaient encore toutes petites en standard, de grandes dames en matière de notes, donc en matière de dans le parcours scolaire, on veut tous être premier, hein, voilà. Et moi, j'ai eu pas mal de batailles avec des femmes pour la première place. Il y a quelques fois, je me suis fait correctement taper. On m'a relégué au second rang, parfois même au troisième rang. Mais à partir de quel niveau, ok, il commence à avoir un gap. Ça veut dire que comment? Parce que si ces filles-là montrent des prédispositions, de bonnes prédispositions à l'école, et ça veut dire qu'elles étudient bien, elles sont intelligentes. Mais pourquoi arriver au niveau? quels peuvent être les freins au niveau professionnel qui les empêchent de passer de passer le cap pour devenir soit des managers, soit des dirigeantes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre ça.
Là, je promets que c'est ma question parce que pendant longtemps, j'y ai travaillé étant, comme j'ai dit, une fille qui a dû se battre contre les clichés très jeune, juste parce que j'étais rebelle. Ensuite, j'ai eu une carrière dans les RH. Pendant ma carrière dans les RH, je me suis battue pour essayer de faire monter les femmes en compétences et donc en grade aussi, pour moi et pour les autres entreprises. Hein. J'ai même parfois organisé des conférences pour ça. Ce que nous avons remarqué, c'est quoi? Avec les campagnes de l'UNICEF et l'UNESCO, toutes les filles à l'école, on a réussi à emmener effectivement beaucoup de filles à l'école. On a eu des classes avec majoritairement des filles par rapport aux garçons. Les filles terminent l'école primaire souvent le même nombre ou plus même. À l'école secondaire, on commence à les perdre. La première chose, c'est la vie. Pourquoi on les perd? Parce que à l'école secondaire, ça devient des adolescentes. Elles rencontrent des garçons, elles connaissent leur corps, beaucoup tombent enceintes. Et en Afrique, aujourd'hui encore, une fille enceinte ne part pas à l'école. Parfois, son destin est brisé sur place. Et ça, c'est un problème parce que nous devons nous battre, même si cette fille est elle est enceinte dans son ventre, pas dans son cerveau. Et donc, ça, c'est un problème. Ensuite, elles arrivent à l'université. Le problème qu'il y avait, c'est qu'elles allaient toutes dans des facultés comme, par exemple, la communication, les relations, RI, les relations internationales. À la limite, elles faisaient un peu économie et droit. Il n'y en avait pas, par exemple, en sciences. C'était difficile. Et il y a eu beaucoup de campagnes pour faire découvrir le métier des sciences pour les femmes. Et aujourd'hui, les femmes y arrivent. Mais encore là, on retrouve encore les mêmes facteurs de la vie qui font que la société où on a grandi, l'église, OK, l'église, je disais, j'ai regardé beaucoup de pasteurs, parfois même les pasteurs de mon église en train. Mon frère, ton CV que tu avais laissé dans une entreprise, on va prier pour que on puisse t'appeler. Non, mais ma sœur aussi a peut-être déposé son CV dans la même entreprise. Donc, il y a tous les facteurs de la société. Il y a ton oncle qui te dit, voilà ma nièce, regarde ce qu'elle fait. Ce n'est même pas une fille. Et puis, on dit, toi-même, si tu ne te maries pas, tu fais la honte à notre famille. Mais si votre fils ne se marie pas, il ne fait pas la honte à la famille, lui. Donc, il y a ces facteurs. Ensuite, nous arrivons au niveau de l'entreprise, OK? Au niveau de l'entreprise, cette jeune femme, si elle est célibataire, le management masculin, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient des prédateurs sexuels pour que cette fille intelligente célibataire ne puisse pas évoluer comme il faut, simplement parce que les prédateurs sexuels ne savent pas faire la différence entre un cerveau et un sexe. Okay. Ils attribuent le fait qu'elles disent non à la faiblesse de son cerveau, ce qui n'est pas normal. Et lorsque vous avez des femmes mariées, son mari ne réalisera jamais qu'ils ont les mêmes obligations professionnelles et à la maison. C'est toujours elle qui doit quitter le bureau à 15 heures, courir pour aller faire le ménage. C'est pas possible. Comment elle va évoluer? Et elle a peur de prendre le poste supérieur parce qu'il a plus de responsabilités et donc mon mari ne m'aimera plus parce que je serai moins à la maison. Et les filles, elles se braquent, elles refusent carrément d'y aller. Donc, on a ces problèmes qui sont vraiment mentaux qu'il faut changer. Parfois, je réfléchis, je me dis, comment tu changes? Il y a quelqu'un qui a dit, nous avons préparé les filles à devenir des femmes modernes. Nous avons oublié de préparer les garçons à vivre avec des femmes modernes dans la vie. Vous comprenez? Ouais. On a oublié les garçons. Les garçons, ils cherchent toujours leur maman, cette femme à la maison. Mais les filles, elles ne veulent plus être leur maman. Elles veulent être autre chose. Et ça, c'est un gros problème qui est un frein professionnel. Même pour la femme entrepreneur, à un moment donné de sa croissance, elle se tourne vers son mari. Et c'est là que les choses s'arrêtent pour elle.
Je peux dire, le tableau que vous êtes en train de dépeindre est un tableau très, très dur, ça veut dire c'est très dur et il y a beaucoup d'écueils, mais vraiment beaucoup d'écueils. Moi, ce que j'aimerais savoir déjà, on va se mettre du côté de l'entrepreneuriat, hein, de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que Congo Business Network peut apporter pour pouvoir effectivement aider l'entrepreneuriat féminin?
Junior, c'est une question très difficile. Si j'avais des réponses faciles à te donner, j'allais te dire ABCD, mais c'est pas facile à résoudre comme problème, comme si je viens de dire. On a des surtout au Congo. On est en train aujourd'hui de parler sur le contexte congolais, donc diaspora principalement au Congo, à Congo Kinshasa. Donc on a des problèmes culturels, c'est-à-dire des traditions qui ne favorisent pas les progrès des femmes dans le monde professionnel. L'entrepreneuriat ou un travail dans une société, une banque, une société de télécom. Donc, il faut changer cette mentalité-là. Et moi-même, quand je voyage au Congo, j'arrive sur place, je parle avec des cousins, membres des familles, je vois la façon dont ils traitent leur femme. Je dis, c'est juste inacceptable. Bon, pour eux, c'est OK. Les choses ont toujours été. Ils ont vu leurs grands-parents, nos grands-pères, ok, mon grand-père. Ils ont vu nos grands-pères traiter nos grands-mères comme ça, ok. Et pour eux, c'est tout juste normal, quoi. Pourquoi toi, tu veux changer les choses? Tu amènes la mentalité, quoi, de l'Amérique. Tu me dis ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc il faut changer la mentalité, comme Sylvia a dit, des hommes aussi. Donc éduquer les hommes pour dire, une femme n'est pas quoi. Inférieure à toi, mais pas inférieure à toi, ok? Mmh. Ça, c'est la première chose, soit côté intellectuel ou quoi que ce soit. Même la force, il y a des hommes donc, qui pensent quoi? Les femmes sont faibles physiquement. Non, c'est faux. Parce que la science montre que... Donc, la science montre que les femmes ont une force aussi physiquement, plus comme les hommes. Mmh. Donc, on a tous quoi? C'est tous quoi? Distribué différemment. Ok, à travers le corps. Donc il faut changer quoi. Il faut changer la mentalité. Il faut aussi faire. Il faut que les gens aussi, les hommes reconnaissent ceci. Vous ne pouvez pas avoir, dans le contexte du Congo, presque 53 ou 54% de la population congolaise des femmes. Hein, et ces femmes sont privées de leur droit de s'exprimer librement dans le monde professionnel. Donc aller à l'école, ok, étudier ce qu'elles veulent étudier. À suivre des formations nécessaires pour développer l'expertise. Si elles choisissent d'aller comme Sylvie, devenir entrepreneur, ok, elle peut devenir entrepreneur. Et selon ce qu'elle est, elle est passionnée, ok. Si elle, comme Judy, elle veut travailler dans une institution, une banque, une société de télécom, ok, elle peut travailler là-bas, ok. Et cela est une bonne chose pour la société. Au niveau global. Vous voyez, c'est une chose pour la société au niveau global. Donc, ne pas avoir quoi, des femmes ou des filles, hein, tout juste, ok, tu grandis, bon, tu as quoi, 18 ans, 20 ans, hein, prépare-toi pour le mariage, ok, pour aller, pour qu'on puisse avoir la dot, ok, qu'on puisse avoir la dot, et tu vas dans le mariage et tu as des enfants, et elle a des enfants, elle prépare maintenant ses enfants pour faire la même chose, répéter quoi, les mêmes histoires, les mêmes traditions qui ne marchent pas. Donc, si on va avoir un pays où l'économie est prospère, avec la richesse, avec de l'argent et tout cela, on doit reconnaître que les femmes doivent être éduquées, c'est leur droit. Les femmes ne peuvent pas demander la permission pour être éduquées à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ok, l'éducation est un droit. Ok, maintenant, comme je dis, je pense, faire en sorte que tout ce que le gouvernement peut faire pour encourager l'accès à cette éducation, comme le président Félix a fait récemment, l'éducation est devenue gratuite, non, au niveau, je pense, l'école secondaire, l'école quoi, primaire. Voilà, tout cela va encourager l'accès à l'éducation. Ça, c'est l'action du gouvernement. Mais les parents aussi ont quelques genres de responsabilités, faire en sorte qu'ils font des suivis, ils utilisent des technologies modernes, YouTube, d'autres cours pour faire en sorte qu'ils assistent leurs enfants à avoir la meilleure éducation possible, ok, pour être en mesure un jour venir ici aux États-Unis, à Harvard, voilà, à Wharton, à Columbia, à Stanford, voilà, étudier l'anglais, Sylvie peut-être que peut parler un peu de ça. Vous êtes dans un pays francophone. Donc, le monde aujourd'hui est devenu tellement international avec Internet, faire en sorte que si tes enfants peuvent apprendre l'anglais, vraiment, quand ils sont petits, ça va toujours leur donner un avantage plus tard. Voilà, Je m'arrête là, je donne la parole peut-être à Sylvie qu'elle ajoute un peu à deux points sur quoi. L'important, c'est d'apprendre l'anglais et ce qu'elle a aussi fait hein, pour au moins avoir un niveau de base.
Mais moi-même qui suis un homme, je suis très intéressé. Sylvie?
Oui, alors aujourd'hui le monde est international et effectivement c'est parmi les choses aussi je dirais que les filles ne font pas, comme je vous ai dit dans mon anecdote, c'est que je lisais des livres très petits et on me trouvait bizarre parce que j'ai toujours aimé lire, apprendre. Et donc j'ai par exemple commencé à apprendre l'anglais simplement parce que je me disais que ça sera un atout pour ma carrière et pour potentiellement pour mon entreprise, si je veux vendre à l'extérieur. J'ai appris l'anglais sans aller à l'école, seule chez moi. Je me suis juste mise à apprendre la musique d'abord, et puis j'ai commencé à lire. Et puis mes enfants, quand les enfants sont arrivés, j'ai fait que mes enfants soient anglophones, et ça s'est avéré être bénéfique pour moi. Et effectivement, et même si vous regardez autour de vous, hein, surtout, j'ai l'impression que la seule qui est très, 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 très africaine dedans, c'est moi. C'est-à-dire une née, grandie, vécue, jamais sortie. Quand je dis jamais, jusqu'à 31 ans, j'étais jamais sortie de ce pays. OK. Non, les filles n'apprennent pas. Les filles n'apprennent pas. Elles apprennent ce que l'école a dit et on sait, et encore, quand on a 51%, c'est déjà bon, quoi. C'est aussi un très grand frein pour le développement des femmes en Afrique.
Après avoir étudié à l'école, tu as une licence en business, en politique, sciences politiques et marketing. Moi, je pense ceci. Les femmes ont le choix de choisir, OK, l'entrepreneuriat comme ce que Sylvie a choisi. Peut-être, Sylvie, tu peux un peu parler. Hein. Pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? On comprend que tu as commencé dans le monde professionnel avec un travail dans une société. Mais qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Et si les gens qui, les filles hein, aujourd'hui ou les femmes qui finissent l'école, est-ce que c'est un choix ou qu'est-ce que tu donnes comme conseil?
OK. Déjà, quand j'ai choisi l'entrepreneuriat, je ne savais pas que c'est ce qu'on appelle ça entrepreneuriat. En fait, j'avais juste choisi de corriger un défaut, un problème que j'avais noté. C'était, je crois, vers l'âge de 15-16 ans. Je venais d'avoir mes nouveaux ploplos, mes nouveaux seins qui étaient très jolis. Et déjà dans le quartier, les garçons commençaient à me siffler. Et un jour, ma mère me dit de courir après un poulet parce qu'il faut qu'on le mange ce jour-là. Je dis, attends, c'est quoi ce délire? Quand on mange le poulet des blancs, ça vient dans un paquet, plumé et tout, hein. Mais quand il faut manger le poulet local, je suis obligée de courir après lui, aller à la chasse comme mon arrière-arrière-grand-mère. Et c'est là que j'ai commencé à m'énerver parce que je me suis rendu compte que le poisson venait en boîte pour les blancs et le poisson congolais, on l'achetait au fleuve dans la boue. On devait aller acheter nos légumes dans un champ, parce que j'ai grandi à Kisangani, on devait aller acheter dans un champ chez les maraîchères, donc vous devez entrer dans le champ, cueillir vous-même, alors que je voyais les gens qui étaient un peu riches aller dans les supermarchés, acheter des légumes déjà nettoyés dans des barquettes. Je me suis dit, il n'est pas question qu'on fasse ça comme ça. Un jour, je ferai notre nourriture comme ça. C'est vraiment, je dirais, en 2017, donc il n'y a pas longtemps, que étant invitée dans une conférence sur l'entrepreneuriat, quelqu'un qui me dit, « Ah, oh, alors toi, tu es aussi entrepreneur ?» J'ai dit, « Non. » Elle a dit, « Tu as une entreprise ?» J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Tu es entrepreneur ?» J'ai dit, « Oui. » Vous vous rendez compte? Je ne savais même pas. Et donc, on se rend compte que derrière, il y a le besoin de corriger un problème. Et c'est là que nous avons un problème encore en Afrique, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas, elles ne connaissent pas. Elles vont la braise devant sa maison parce qu'on lui a dit que c'est comme ça que tu vas survivre. Mais elle n'emprunte pas, elle ne met pas dans sa tête que tu peux développer la chaîne de valeur de la braise et devenir un entrepreneur et créer carrément une entreprise, par exemple, ou carrément une usine professionnelle, OK, avec des machines qui te font de la braise bien emballée. Pour elle, c'est juste rester au coin de la rue, faire son 10 000 francs journalier et c'est bon. C'est juste qu'elle ne sait pas. Et ça, c'est un problème. Jusqu'en 2017, je vous parle de 2017, il y a à peine 3 ans, même moi, je ne savais pas que c'est ça être entrepreneur. Je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que je voulais corriger un problème que j'ai rencontré dans ma société.
Magali, comment tu as fait pour arriver en entrepreneuriat aussi? Est-ce qu'on peut
Alors moi,
tu peux nous expliquer.
Oui. Alors moi, quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai tout de suite été embauchée dans une société comme assistante. J'ai commencé assistante achat et ensuite j'ai très vite évolué comme business analyst. Donc j'ai évolué dans la mode, dans la beauté. Alors après, j'ai été débauchée pour travailler dans de grandes maisons. Et un jour, en fait, ça, ce sont mes études. Mais en parallèle, j'ai toujours été entrepreneur finalement. J'ai grandi dans une église, j'ai évolué dans une église, et il y avait quelque chose qui se faisait très très souvent dans les églises. C'était les mariages, beaucoup d'organisations de mariages. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les jeunes se mariaient, mais n'avaient pas forcément de bon budget pour pouvoir avoir un mariage, une belle décoration, un bon lieu. Donc, ce que j'ai proposé avec ma meilleure amie, on s'est lancé comme ça. Donc, en étant étudiante, on s'est lancé dans l'organisation de mariage. Donc, l'objectif, c'était vous faire un mariage sur mesure en fonction de votre budget, mais quelque chose de qualitatif. Donc là, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, parce que je facturais, en fait, j'ai commencé déjà à entreprendre, c'est-à-dire valoriser, donner de la valeur aux choses, proposer des offres. Et là, on a commencé. Ensuite, entre-temps, j'ai évolué donc dans mes études. En fin d'année de ma cinquième année, j'étais en stage. Je me suis dit, bon, ben ok, le stage se termine, on m'embauche. Et entre-temps, je continuais à organiser les mariages, à proposer le shopping aux futurs mariés, voilà. Et donc, plus j'avançais et plus je me disais, c'est pas possible. C'est super, Magali, tout ce que tu apprends, c'est bien. Tout ce que tu as appris à l'école, c'est bien. Mais finalement, à l'extérieur, tu sens que beaucoup de personnes ont besoin et n'ont pas forcément accès aux grandes structures, à certains services pour des problèmes de budget, pour des manques d'informations. Parce que là aussi, il y a un problème d'informations, des informations qui ne circulent pas. Et là, je me suis dit, bon, j'ai continué. J'ai été embauchée. J'ai continué à apprendre le terrain, développer. Et ensuite, j'ai continué à proposer mes conseils. J'ai arrêté le mariage et je faisais juste du conseil en image. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon ben, écoute Mayali, il serait temps que toi aussi tu te lances parce que c'est ce que tu aimes faire déjà. Et c'est ce que tu sais aussi très bien faire. Tu vas pouvoir concilier ce que tu as appris sur le terrain via l'école et via les entreprises et ce que tu as appris seul en fait sur le terrain, ce que tu proposais. Donc à partir de là, je me suis dit ok. Donc j'ai monté ma structure d'abord. Donc j'étais part-time, je travaillais et à côté je continuais l'entrepreneuriat. Et il y a deux ans, j'ai décidé d'arrêter la vie salariale et d'être à mon compte. 100% à mon compte. Donc, ça veut dire de vivre de ma passion, de vivre de ce travail-là et d'aider les gens, en fait, à comprendre ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils peuvent faire et surtout leur faire comprendre que parfois, on nous donne un chemin à suivre, mais ce n'est pas forcément le chemin. La scolarité nous apprend beaucoup de choses et c'est très bien, elle nous enrichit, elle nous aide à valoriser aussi notre intelligence, mais c'est pas forcément ce qu'on aimerait faire pour être épanoui. Et finalement, on peut faire de notre passion un métier. Donc moi, c'est ce que je prône, faire de sa passion un métier. Et ce qui fait aussi, en fait, en faisant de sa passion un métier, ce qui fait aussi qu'on se valorise et qu'on se démarque, parce que c'est une passion, ça vient d'abord du cœur. Et après, on formalise tout ça et on enrichit.
Magali, je voulais ajouter un point sur ce que tu as dit. Je voulais ajouter un point là-bas. Moi, comme j'ai dit, en tant que fondateur d'un réseau d'affaires, je vois des choses... tout tourne sur un seul mot, expertise. Voilà. Ce que Magali a dit est très important. Faire quelque chose dont tu as la passion ou tu es passionné, ça c'est très important. Mais à la fin de la journée, les conseils que je donne aux gens est ceci, les hommes, les femmes, il faut montrer l'expertise. Il faut vraiment montrer l'expertise dans ton domaine. Tu as la passion, très bien, très très bien. Moi-même, je suis parmi les passionnés. Quand je commence à parler sur les choses du réseau, monde professionnel, stratégie commerciale, je peux parler pendant deux heures. Mais C'est très, très important de distinguer entre la passion et l'expertise. Pourquoi? Parce que dans le monde des affaires, quand les gens vont comparer des personnes et choisir, ils vont aller avec celui qui a l'expertise. Vous voyez, si Sylvia produit une confiture, ok, c'est sa passion, ça c'est très bien. Maintenant, on va comparer à d'autres confitures et les gens vont dire ok, ce que Sylvia a fait, ça c'est vraiment la meilleure qualité possible. Je prends ça. Ok, ils vont acheter à cause de quoi? De l'expertise qu'elle a développée et qu'elle a en principe transmis ou converti dans un produit et un service. Donc, très, très important. Mais ce sera aussi intéressant d'écouter Makali un peu élargir. Makali, qu'est-ce que toi, tu vois côté stratégie d'image et communication pour les femmes? Pourquoi cela est important? Et surtout, pourquoi cela est important pour des femmes à partir de Kinshasa?
Alors, déjà, juste pour rebondir à ce que tu disais, pour moi, aujourd'hui, donc, quand je parle de formaliser, de professionnaliser les choses, je parle de l'expertise. Hein? L'idée c'est de fusionner cette passion, d'en faire un métier et de devenir une référence. Donc effectivement, il y a l'expertise et je reste, en tout cas, j'y crois. Donc cette passion plus l'expertise, le travail qu'on va donner pour valoriser, pour être expert dans ce domaine d'activité, voilà, nous permettra de nous différencier sur un marché. Ensuite, voilà, il vient comment valoriser, comment mettre en avant toutes ces personnes qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise. Et c'est là, en fait, qu'entre en jeu la stratégie de communication et la stratégie d'image. Parce que toutes ces femmes-là, moi, je découvre beaucoup de femmes. Je sais pas si aujourd'hui, je suis avec mes collaboratrices Judith et Sylvie. Je sais pas si je tape leur nom, je sais pas ce que je vais retrouver. Est-ce qu'elles sont, par exemple, là, je découvre une Sylvie qui a vraiment une histoire à raconter. Sylvie a une belle histoire à raconter et peut motiver et être un exemple pour beaucoup. Mais est-ce que Sylvie est assez mise en avant? En termes déjà de personal branding, ça veut dire sa communication à elle personnelle pour qu'on la découvre. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai repéré, c'est ce qui manquait aux femmes aujourd'hui. Donc, elles ont le savoir-faire, elles ont la volonté, la curiosité, elles ont l'expertise, mais elles n'ont pas la mise en avant. Elles n'ont pas la communication qui suit. Et voilà, c'est ce que je propose aujourd'hui quand je parle de valoriser l'image de la femme, valoriser son expertise, voilà, c'est ce qu'on propose.
Il y a aussi parfois des problèmes, je pense, peut-être des problèmes de coûts aussi, surtout pour des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui parfois se lancent viennent de se lancer avec qui n'ont pas forcément de gros moyens. Et parfois qui n'ont pas effectivement aussi cette expertise de pouvoir le faire, de pouvoir le gérer soi-même. Il faut aller vers des entreprises, il faut aller vers des structures telles que la tienne. Mais si on n'a pas d'argent, comment on fait?
Si on n'a pas d'argent. Bon, déjà, dans un premier temps, il faut commencer à s'intéresser. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser, on se dit, je suis là, je n'ai pas d'argent, mais comment est-ce que je peux me mettre en valeur? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures et d'associations, C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai et ma structure et l'association qui offrent des ateliers, des conférences, afin d'aider les femmes à valoriser leur image, dans la société. Donc voilà. Et d'abord aussi, il y a cette curiosité qui est aussi très importante. Donc être curieux, aller, aujourd'hui on a le digital, aujourd'hui, même au fin fond d'un pays, on arrive à avoir des fois une connexion. La plupart ont Facebook, premier. Donc le premier outil, la plupart ont déjà au moins Facebook, si je peux parler du digital. Donc aujourd'hui, il y a Facebook. OK? Donc, comment est-ce que maintenant je peux me servir des outils que j'ai en main, en ma possession, pour valoriser mon image? En fait, c'est ça. C'est la première question à se poser si je n'ai pas d'argent.
Oui.
Ça sert aussi avec ce qu'on a. Et puis après, en cherchant, on finit par trouver des réseaux. On finit par trouver des réseaux de professionnels. On finit par trouver des événements qui se font de plus en plus, un peu partout, et des professionnels qui sont là pour accompagner.
D'accord. Et Judith, j'ai dans ta présentation, tu parlais de justice pour toutes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, Justice pour toutes est une association à but non lucratif qui valorise la femme, qui soutient la femme qui sont victimes de injustices sociales. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais l'ambition d'être ingénieur en mine. Alors, on m'a découragée tellement par la société en me disant que tu es une femme, tu ne peux pas être en bourse, tu ne peux pas être sous terre en train de creuser, je ne sais pas, pour trouver des minerais. C'est impossible. En tant que femme, tu dois être dans la ville, avoir un travail normal, comme toutes les femmes. Et j'ai grandi avec cette mentalité-là, depuis que j'étais petite, que je suis une femme, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler comme ça, je ne peux pas avoir des ambitions, je ne veux pas faire le travail qui est censé, entre guillemets, être pour homme. Et voilà. Et après, à la fin, j'ai fait l'économie. Et arrivée à Kinshasa, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient dans les mêmes situations que moi, beaucoup de jeunes filles qui n'arrivaient même pas à s'exprimer, à se défendre elles-mêmes, parce qu'il y avait des gens autour qui décourageaient, qui limitaient les ambitions, qui mettaient des plafonds dans leur parcours. Et d'où m'est venue l'initiative de créer une association Justice pour toutes, une association qui aide les femmes, qui empower women, si vous voulez, qui donne de l'ambition, qui aide à accomplir les rêves des femmes. Et voilà, justice, oui, justement. Alors, c'est là que j'ai créé Justice pour toutes. Mm-hmm. Et voilà, et Justice pour toutes aussi, pour dire aussi, on accompagne aussi les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont victimes de violences sexuelles, juridiquement, à obtenir justice. Et après ça, on essaie de le réencarner dans la société avec des trainings, des formations. Ça dépend de leur volonté. Et voilà, je me suis rendu compte que la femme ne devait pas avoir des limites, ne devait pas se priver de ses passions, de ses ambitions, parce que la société le dit. Non, nous sommes des femmes, nous sommes des humains, on est comparables à l'homme. C'est vrai que les hommes, ils sont un peu plus forts que nous, mais on peut quand même faire ce que les hommes font.
Et relatif, hein. C'est relatif, la force.
J'allais dire les hommes ne sont pas plus forts que les femmes. C'est non. Scientifiquement, on montre.
C'est ça que la science
non, dit. Non, c'est incorrect. Okay. C'est incorrect. Non, donc, vous voyez, on est en train de changer la mentalité, non. Vous voyez. Donc, les hommes, en matière de force, scientifiquement, c'est distribué différemment. OK? Distribuer différemment à travers le corps. Donc, les femmes ne sont pas, quoi, moins weak, comme on dit en anglais, faibles, non. Donc, on change cette perception-là.
Cette perception doit être changée, et je me rends compte que c'est au bas âge que nous devons nous battre pour essayer de changer ça, que la génération prochaine vienne avec... soit une génération avec des ambitions pour les femmes, des femmes battantes, des femmes travailleuses, etc.
Voilà. C'est ce qui est bien, ce qui ressort aussi du développement du podcast depuis que nous avons commencé, c'est que effectivement il y a aussi un gros travail à faire chez les hommes. C'est-à-dire que il faut diriger le travail. Il faut effectivement préparer les jeunes filles à être plus combatives, à ne pas regarder, à ne pas avoir de limites. Mais il faut aussi préparer ces hommes-là, ou la nouvelle génération, en tout cas, d'hommes, à ne pas voir la femme telle que leurs anciens la regardent. Donc, si péjorativement. Est-ce que, Congo Business Network ou Justice pour toutes a rencontré du monde pour voir si on peut encadrer, on va dire, cette lutte, encadrer ce domaine pour dire bon, mais voilà, il faut peut-être des lois, il faut peut-être des ressorts juridiques pour pouvoir créer un terreau fertile.
Je vais ajouter un point sur ta question, Junior, et je laisse Judy ajouter aussi à d'autres personnes. Je voudrais juste rappeler, le thème de la discussion, c'est comment booster l'accès à l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat ou l'emploi pour les femmes congolaises. Donc, pour arriver au point où on booste l'accès à l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat ou l'emploi, on doit reconnaître, il y a le travail à faire sur des côtés, des deux côtés, privé ou la société en général, et les gouvernements. Et ne pas tout dire, le gouvernement doit faire, le gouvernement n'a pas fait. OK? Faire ce que nous, on peut faire. En matière de femmes, ce que je dis est ceci. Magali a parlé de storytelling en matière de communication. OK? Pour arriver au point où tu parles de storytelling ou à ton histoire, tu fais ça pourquoi? Pour arriver à construire une marque ou une marque, le branding, ok? Le brand, personal branding, qu'elle a dit. Mais tu le fais dans le contexte de ton expertise et si cette expertise s'aligne avec ta passion, même mieux, ok? Ok? Donc, c'est mieux si on voit la passion, on voit l'expertise, même mieux. Maintenant, pourquoi cela est important? Cela est important, surtout pour les femmes, parce que ça va te distinguer, ok? Par rapport à d'autres femmes qui ne le font pas. Donc, ils ne disent pas quelle est leur histoire, comme l'histoire de Sylvie Malekuisa. Vous voyez? Maintenant, tu vas le faire comment? Si tu n'y a aucune publication sur toi, comme ce que Magali a dit, si aujourd'hui on va sur Google, on tape ton nom en tant que femme entrepreneur ou professionnel dans le monde, dans un travail, dans une institution, qu'est-ce qu'on peut trouver sur toi qui donne cette image-là positive hein, de toi. Donc, il faut avoir une stratégie où tu peux communiquer pour faire en sorte qu'il y a des articles hein, qui peuvent sortir sur toi, ton parcours, des interviews à la radio, à la télé, comme on est en train de faire aujourd'hui sur le podcast. Aussi avoir une présence sur les réseaux sociaux et la base de ça, LinkedIn. Avoir une photo professionnelle sur LinkedIn, avoir des publications régulièrement sur LinkedIn, dans ton domaine qui montre que tu es à jour. LinkedIn est devenu en quelque sorte un résumé digital de ta vie professionnelle. Mais donc, si quelqu'un va sur LinkedIn, on ne peut pas même te trouver. C'est un problème. Et aussi, si on va sur LinkedIn, la dernière fois que tu as publié, il y a une année. C'est un problème. Donc, ça, c'est au moins des choses qu'on peut faire côté secteur hein, privé ou société civile. Maintenant, oui, voir d'autres actions que le gouvernement peut faire.
Tout à fait. Je comprends tout à fait, Noël. Mais pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que effectivement, du côté de privé, vous êtes en train de faire un travail. On est en train de faire un travail énorme, effectivement, pour pouvoir régler, voire en tout cas apporter des outils à ces femmes-là. Mais aussi, je pense que c'est utile que nous, qui avons peut-être, en tout cas, quand je dis nous, je vais parler de Congo Business Network, qui est quand même une organisation assise, par exemple, pour Justice pour Toutes, qui travaille dans le sens de l'émancipation et de la réduction des inégalités, de partir voir le législateur, en tout cas, d'avoir un dialogue avec le législateur pour faire des propositions.
Alors, je disais qu'il y a déjà des lois qui existent, qui favorisent les femmes, mais ces lois-là ne sont pas mises en pratique. Et du coup, c'est ça le souci. Alors, en tant que Justice pour Toutes, nous battons pour que les lois-là soient appliquées et favorisées pour les femmes. On a eu des rencontres avec les magistrats, on a eu des rencontres avec... On a notre équipe, on a des avocats, il y a des avocats qui sont impliqués dans ça. Alors, on a eu des rencontres, mais les lois ne sont pas appliquées. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème que nous, en tant que Justice pour Toutes, on rencontre dans notre parcours. Donc voilà.
Judith, j'aimerais savoir, en matière d'accès à la formation, hein, en tout cas d'accès à l'éducation, qu'en est-il des est-ce que vous avez une idée sur comment ça se passe au niveau des zones rurales du Congo? Est-ce que les femmes, les filles ont accès à cette éducation-là?
Le pourcentage est vraiment très bas. Les pourcentages sont vraiment très bas. Dans les milieux ruraux, on se rend compte que la plupart des filles sont dans les champs avec leur mère, qui accompagne leur mère. Et ça, c'est soutenu par les pères qui privilégient d'abord les garçons. Ils disent que les garçons, ils vont s'occuper de la famille. Alors du coup, l'éducation pour l'accès à l'éducation pour la jeune fille est vraiment très limitée et très bas dans les milieux ruraux.
Moi, j'aimerais aussi savoir quelle est l'impression, en fait, parce que vous menez, on a des femmes qui mènent des combats, en fait. On a Sivi qui mène, non seulement qu'elle est entrepreneur, mais elle mène un combat vraiment dans la direction des... dans la direction de la réduction des inégalités pour les femmes. Nous avons Judith aussi qui mène ce même combat. Mais quelle est l'impression de des hommes de votre vie sur l'enjeu de votre combat? Je commence par Sylvie. Quelle est l'impression?
Alors, les hommes de ma vie. Je commence par celui qui partage mon existence depuis 10 ans cette année. Youpi! Oui. bon, il faut savoir déjà que faire 10 ans avec mon mari, sincèrement, c'est incroyable parce que dans ma tête, on me disait que je ne me marierais pas parce que je n'entre pas dans le schéma normal d'une fille. Je ne me marierais pas parce que il n'existe pas d'hommes qui peuvent accepter ce genre de femme. Eh ben, ça fait dix ans qu'il y a un homme qui, lui, ça lui va. Ok, ça lui va. Il sait que celle-là, ouf, faut laisser. Ok. Et c'est très très important. Et chaque jour, je me rends compte de la grâce que le Seigneur me fait d'avoir un homme comme ça, de savoir qu'il y en a pas beaucoup, surtout dans nos pays à nous, qui acceptent une femme qui se lève et qui lui disent aujourd'hui, je serai dans une conférence toute la journée. Voilà, je ne peux pas faire le ménage parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de si, je ne peux pas faire ça. Il n'y en a pas. Donc, c'est très important. Et là, j'emprunte les mots de mon pasteur qui a toujours dit, avant de te marier, vérifie bien que tu te maries avec quelqu'un qui comprend ta vie et qui vit, qui accepte cette vie-là. Et les autres hommes de ma vie, je crois que mon père est le premier qui est un peu ébahi. Il ne sait pas comment. Il est ébahi. Il faut savoir que le monsieur voulait un fils, comme la plupart des hommes. Hein, ils veulent que leur aîné soit un fils et il a eu une fille. Et quand même, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet homme parce qu'il ne m'a jamais traité comme une fille. Et c'était très facile pour moi de dire que de toute façon, je suis un garçon parce que lui, il a joué le jeu tout de suite. Il m'achetait des vêtements pour garçon et me faisait faire des activités avec lui. Parce que j'aimais ça. Et maintenant, en évoluant, il me regarde. Beaucoup de gens lui ont dit que ta fille n'est pas correcte. Et puis, il regarde. Tout qu'on fait, elle fait bien. Donc, voilà. Il est un peu ébahi, hébété. Donc, il est un peu au milieu. voilà. Les autres hommes de ma vie, c'est qui? Mes frères. Oh, mes frères, ils sont contents. Hein? Mes frères, ils sont contents. Il y en a qui veulent que leur femme soit comme moi. Donc, je les vois en train de parler à leur femme et à leur fiancé. Pour celui qui est fiancé et l'autre, mon épouse. Voilà. Donc, je suis de celles qui ont vraiment la chance, la grâce d'être entourées par ces hommes genrés. Les hommes genrés, donc je vais dire les hommes les plus proches, hein, ma ceinture, la première ceinture d'hommes autour de moi, ce sont des hommes genrés. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, c'est plutôt les hommes de la société qui avaient du mal à accepter une femme aussi, dehors aussi. Et c'est là que vraiment les hommes doivent vraiment, vraiment se rendre compte d'une chose. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas une lutte. Une femme qui veut plus qu'un tablier de cuisine n'est pas une mauvaise femme. Je suis capable de faire un très bon pain et me tenir dans un conseil d'administration d'une entreprise.
C'est magnifique.
Vous condamnez une femme à la cuisine, vous ne saurez jamais ce qu'elle est capable de faire pour la société. Et c'est vraiment dommage de passer à côté de tant de beauté, autant d'efficacité. Beaucoup de gens passent à côté de ça et c'est vraiment dommage.
Et Judith?
En tout cas, nous, ces femmes-là, comment on nous caractérise, nous sommes vues comme des féministes. Chaque jour, j'ai des commentaires comme ça. Je dis, t'es une féministe. Mais des fois, je me demande, c'est quoi la définition de féministe? Qu'est-ce qui caractérise le féminisme? Vouloir se battre pour que ses droits soient respectés, ça fait de moi une féministe? Et voilà, je me pose beaucoup de questions. La société nous juge, nous compare. Ils disent qu'on est des hommes, on veut se comparer aux hommes, mais c'est pas ça. Et moi, j'ai aussi eu de la chance ou de la grâce d'avoir un soutien de ma famille, particulièrement de mon père qui est juriste, ma mère aussi. Alors, deux, ils comprennent et ils savent quels sont les droits, surtout de la femme, de l'homme en général. Et du coup, ils me soutiennent. Et grâce à ça, ça m'aide à avancer, à me battre encore, à aller plus loin. Sinon, je ne sais pas si je pouvais arriver sans avoir le soutien de ces hommes, de mon père particulièrement, dans ça. Donc,
Ok. Noël, tu as autant de femmes battantes à côté de toi. Je comprends tout à fait que tu sois féru de pouvoir permettre aux dames de sortir de leur carcan et tout, et de nous envahir alors que nous sommes des hommes.
Moi, j'ai le même point de vue, hein, que ce que Sylvie, je dis à Magali, on dit. On doit reconnaître les droits des femmes, ok. Ici, on est en train de parler dans le contexte de monde des affaires, hein, leur droit d'aller à l'école, d'étudier ce qu'elles veulent étudier, ok. Comme Judy a dit, elle voulait devenir ingénieure dans le secteur minier, je pense. C'est ça ce qu'elle a dit. Voilà, si c'est, oui, ça, c'est ça. C'est qu'elle veut étudier, ok. C'est son droit d'étudier et n'a pas besoin de demander la permission, hein, aux gens. Est-ce que je peux étudier ça? Ok, tu peux le faire parce que tu... Ça, c'est le métier d'une femme. Tu peux pas le faire parce que bon, ça, c'est pas, c'est tout juste quoi. Vous savez, dans la nature, hein, il y a quelque chose que Dieu a mis dans chaque personne. Laisse les gens choisir leur propre chemin, soit l'entrepreneuriat ou un travail dans une société. Et je reviens encore à ce que j'ai dit. J'ai dit aux femmes, ne vous sentez pas intimidé par les hommes, ok? Parce qu'à la fin de la journée, hein, il faut que l'homme montre son expertise. Il peut pas tout se dire, oh, moi je suis un homme, moi je dis. Il faut que l'homme montre son expertise dans son domaine. Et si toi tu es une femme, tu peux montrer ton expertise, tu peux t'exprimer, tu peux travailler, tu peux produire. Hein. Personne ne peut t'arrêter. Hein. Donc la limite, comme on dit, the sky is the limit. Non, the sky, la limite n'est pas le ciel. La limite, c'est quoi? Tes ambitions à toi-même en tant qu'une femme, ta capacité d'étudier, maîtriser ton domaine, développer l'expertise et montrer aux gens que juste parce que tu es une femme, hein, personne ne peut tenir ça contre toi. Nous, même aux États-Unis, on traverse la même chose, la même situation. Aux États-Unis, comme vous connaissez, il y a une histoire de quoi? Des esclaves, des noirs. Donc ici, la mentalité est quoi? Tu es noir, ok, les gens vont supposer, vont assumer que tu n'es pas capable. Vous voyez, non? Tu n'es pas capable. C'est ça la situation aux États-Unis. Tu es noir, tu n'as pas la capacité, tu n'es pas assez intelligent. Donc qu'est-ce que nous on fait? On fait en sorte que on montre à tout le monde dans le monde professionnel, oui, je peux être en matière de génétique, hein, génétique, ok, africain ou congolais, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'expertise. Donc, à la fin de la journée, dans le monde professionnel, ça va arriver à cela. Montre ton expertise et laisse le fruit de ton travail, hein, parler de soi-même.
Mais on est en train d'aller vers la fin. On est en train d'aller vers la fin. Moi, j'aimerais, si Sylvie a un dernier mot, en tout cas, à nous donner, un dernier mot de sa pensée, à dire à ces filles qui vont, ces filles, ces femmes, parce que je sais qu'il y a aussi des plus jeunes qui vont sûrement écouter ce podcast. Quel est le mot qu'elle aimerait leur faire passer?
Déjà, pour encourager les femmes à étudier, à l'entrepreneuriat, etc., etc., à la carrière, le rôle pour le faire incombe à tout le monde. La première personne, c'est elle-même, cette jeune fille, cette petite fille. Moi, j'avais 6-7 ans et j'étais la rebelle du quartier. OK? Parce que j'avais refusé d'être dans le carcan. Je ne dis pas aux filles d'être des rebelles, d'être têtues. C'est juste de rester accrochées à leurs rêves. Elles ont le droit d'exister, elles ont le droit d'aimer ce qu'elles aiment et de détester ce qu'elles détestent. Et que surtout, une femme ne se définit pas par sa capacité à faire le meilleur poisson braisé ou à élever les plus beaux enfants sur Terre. Non, c'est pas ça qui définit une femme. Une femme, c'est celle qui arrive à avoir une vie épanouie, mais surtout celle qui impacte sa communauté. C'est au finish et la définition d'un être humain. OK, ce n'est pas parce qu'on est femme ou on est homme qu'on est différent. Il faut juste exister et avoir une existence qui a de l'impact. Ensuite, le rôle revient aux parents, bien sûr. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Comment on les fait se sentir? Il y en a qui n'ont que des filles. Moi, je n'ai que des filles. Et je ne leur dis pas que les garçons sont comme ci, les garçons sont comme cela. Ce sont des enfants. Donc, je les traite comme des êtres humains. Eh ben, c'est comme ça que les enfants doivent grandir, comme des êtres humains. Ensuite, il y a l'école qui joue un très, très grand rôle parce que finalement, on passe beaucoup plus de temps lorsqu'on est enfant, dans toute cette période où on est en mode éducation, on passe plus de temps à l'école qu'avec papa et maman. Donc, l'école a un rôle. Il y a quelque chose à revoir là-bas. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants à l'école pour que, à un moment donné, les enfants commencent à se sentir différent selon qu'ils sont filles, selon qu'ils sont garçons. Ensuite, il y a la société, l'État, comme on dit, qui doit faire, comme on a dit, hein, des lois qui intègrent finalement l'être humain et qui n'exclut pas une partie de sa population parce qu'elle est différente ou parce qu'elle a un autre sexe. Okay? Des lois plus inclusives, des droits plus inclusifs. Ça aussi, c'est important que les gouvernements puissent s'en occuper. Et vraiment, je souhaite qu'enfin les femmes se lèvent. Nous sommes dans un pays où 53% de la population est féminine. Oui. 75% de la population vit de l'entrepreneuriat ou du commerce. Il n'y a que 25% qui sont en train de travailler quelque part. Mais dans les 75% d'entrepreneurs, il y a encore 70% qui sont des femmes et 30% d'hommes, parce que les hommes sont souvent à l'emploi et les femmes se débrouillent pour vivre. Elles sont plus entrepreneurs. Mais ce qui fait mal, c'est que 80% de notre population est pauvre. Et si vous regardez ces chiffres, vous vous rendez compte que la RDC, notre si beau pays, est pauvre parce que la population d'entrepreneurs est pauvre et ce sont des femmes. Il est très important que les femmes congolaises se lèvent et commencent à travailler et développer des richesses. C'est seulement comme ça que le Congo sera riche. Sinon, on est parti pour être l'un des pays les plus pauvres pour la vie.
Merci, Sylvie. Merci Sylvie. Je viens de vous confondre. Excusez-moi, mesdames. En gros, Magali, quelles peuvent être tes actions choc qu'on peut mettre en place à court terme pour pouvoir permettre à plus de femmes de rentrer dans l'entrepreneuriat?
Ben, je pense, dans un premier temps, bon, action choc. Si on veut parler de loi, il faudrait que les lois soient respectées de tous. Et on sait qu'elles ne sont pas respectées de tous. Aujourd'hui, on essaye de mettre en avant la parité. Et même le fait de mettre en avant la parité, j'en suis presque pas d'accord, parce que c'est pas un droit qu'on demande, comme nous le répète souvent Noël, quoi. C'est pas un droit. On doit être reconnu pour nos compétences. Il y a énormément de femmes compétentes et on doit être reconnu pour nos compétences. Donc, à partir de là, je pense que c'est une action choc. On va pouvoir multiplier les actions choc. On va pouvoir multiplier les gros événements, pouvoir rassembler toutes les grandes femmes leaders du pays, prendre la parole, les mettre au premier plan. Je ne sais pas si ça va suffire, en fait. Parce que vraiment, moi, je vois, tout ce que j'entends, là, il y a vraiment un problème de mentalité. Et je pense que tant que l'homme ne prendra pas en compte ce souci-là, tant que l'homme laissera la femme dans un coin, comme je le disais juste avant, Judith, privilégier le garçon que de la fille, et ben tant qu'il y aura tout ça, et ben ça va être très difficile. ça va être très difficile. Je pense que seule, on va continuer à se battre, nous les femmes, on va continuer à faire, à prendre la parole pour faire valoir notre expertise, hein, pour aller de l'avant. Mm-hmm. Mais on a vraiment besoin du soutien, c'est même pas un soutien en fait, de la prise de conscience de l'homme.
Alors Judith, aussi, j'aimerais, si possible, que tu me donnes ton mot, ton dernier mot. Pour
alors mon dernier mot, je veux juste essayer de... D'accord. Je veux juste essayer d'accompagner, de souligner de ce que Simi vient de dire. Et si toutes les femmes du monde apprenaient à lire et à écrire, avaient le droit de faire des études, d'exercer un métier et connaissent leurs droits, en tout cas, le développement social, économique et politique de, de notre pays, le Congo, serait vraiment très accéléré. Vous comprenez ? Alors, je dirais que l'éducation des filles est le point précurseur des changements durables. Une fille instruite peut prendre en main sa vie, elle peut sensibiliser à l'importance de l'éducation, elle veille à ce que ses enfants même aient une éducation de qualité et elle peut aussi lutter à son tour contre les discriminations dont les filles sont victimes. Par exemple, les mariages forcés, les grossesses précoces, le travail infantile, etc. Alors, mon dernier message serait plutôt d'encourager toutes ces femmes, toutes ces filles qui se battent pour leur émancipation, que les difficultés ou bien les obstacles ici de la vie, peu importe, que ça leur ne les décourage pas, ne leur pousse pas à reculer ou à abandonner leur poursuite. Donc, voilà. Okay.
Merci Judith, c'est un plaisir. Alors, le tout dernier mot revient à Noël.
Oui, merci Junior d'avoir pris le temps pour nous accorder le pointer de nous exprimer comme ça. Moi, je finis en disant ceci. On peut parler tout ce qu'on a parlé très bien. Il y a des changements de mentalité qu'on doit voir, le gouvernement doit travailler. On fait ce qu'on fait, mais il faut qu'on puisse avoir des modèles de réussite des femmes, ok, comme Sylvie Marquisa, modèle de réussite, ok, des femmes entrepreneurs, modèle comme Judith Tunda, voilà, femme professionnelle. Si on n'a pas ces modèles, les filles vont aspirer à quoi? Moi, je me rappelle en 2008 aux États-Unis, quand Barack Obama est devenu président, il faut regarder 2010, beaucoup de personnes, des Noirs, se sont déclarés aussi, candidat à des élections au niveau de la ville, au niveau de plusieurs États, parce qu'il faut des modèles dans la vie pour inspirer les autres, ok? Maintenant, l'un des problèmes au Congo, c'est quoi? Tu deviens important, tu deviens trop important, tu n'es plus accessible à personne. On ne peut pas connaître comment te contacter, ok? Parce que tu es tous devenu quoi? Vous voyez le problème. Donc, il faut des modèles de réussite. Il faut des femmes accessibles qui peuvent parler avec, comme je dis, viens de dire, à travers son organisation, des filles démunies. OK? Donc, tu n'es pas là vraiment au ciel. Tu n'es pas accessible à personne parce que tu es trop quoi, élevée, importante. OK? Ça. Et aussi reconnaître que, Sylvie a dit, bon, tu es entrepreneur, très bien, tu es dans le monde professionnel, comme je dis, très bien, mais tu as quoi comme impact dans la société congolaise? Tu as quoi comme impact? C'est juste quoi des bruits? Quel est l'impact que tu as, vrai impact? Et aussi, je termine, tu es dans la diaspora, tu es au Canada, aux États-Unis, en Europe, tu es en Afrique du Sud, au Maroc, même en Asie, ok? En tant que femme, tu as l'expertise dans un domaine. Qu'est-ce que tu fais pour au moins amener le changement au Congo? Le monde aujourd'hui, il y a la technologie. Tu ne peux pas, on ne vit pas quoi, il y a 100 ans. Donc, mets ton expertise au moins dans un domaine et amène au moins quelques genres de changements au Congo. Ne sois pas tout juste là en train de regarder à distance, de blâmer d'autres personnes, en train de blâmer d'autres personnes, en train de blâmer le gouvernement. Même si tu es dans la diaspora, essaie de trouver le moyen. Moi, je suis actuellement à New York, ok? Actuellement à New York. Donc, trouve le moyen au moins d'agir. Ah, au Congo, si tu peux, ok? Ah, même dans la diaspora, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, beaucoup de réseaux maintenant. Il n'y a plus d'excuses tout juste pour rester un spectateur qui regarde que le changement vient et toi, tu n'es pas impliqué en matière du travail du tout, ok?
En tout cas, c'était un plaisir d'avoir Noël, Judith, Sylvie et Magali qui est partie un peu plus tôt. Les femmes doivent se battre pour prendre leur place parce que nous avons besoin d'elles. Oui, messieurs, nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin de leur expertise. Nous avons besoin d'elles sur différents domaines, que ce soit professionnel ou entrepreneurial. Mesdames, nous n'attendons plus que vous. Et c'est le souhait de toutes les personnes qui étaient sur ce podcast. Nous étions avec Congo Business Network. On remercie encore Noël et on lui fait un ciao. On fait un ciao à Judith, un ciao à Sylvie. Et ça sera pour la prochaine, pour le prochain épisode plutôt.